Bonjour. Ça va?
Oui.
Tout le monde se porte bien ce matin? Que Dieu soit loué. Ce matin, on va prier d'abord. Oh, c'est pas grave. Une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Je cherche, je n'en trouve pas. Il y en a habituellement. Non, il n'y en a plus. C'est fini. Si quelqu'un peut m'en donner, s'il vous plaît, une bouteille d'eau. J'ai soif. Excusez, c'est maintenant, ça commence ici. On va prier. Père Céleste, ce matin, nous venons à tes pieds dans l'humilité. Nous venons aussi tremblants devant toi, parce que chaque fois, quand il est question de prendre ta parole devant ton peuple, Seigneur, nous tremblons au fond de nous-mêmes, parce que nous voudrons être capables de transmettre ta parole efficacement comme toi tu le désires. Et ce matin, Seigneur, aide-moi dans ta grâce. Soutiens-moi dans ta grâce, Seigneur. Tu connais mon état d'âme et tu sais comment je me sens au fond de moi-même. Et je viens dans l'humilité, Papa, s'il te plaît. Parle-nous. Fais-nous du bien. Instruis-nous ce matin. Fortifie-nous. Que nous ne sortons pas de cette salle telle que nous sommes entrés. Que nous sortons renouvelés, galvanisés pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Evelyne va bien? Elle est là aujourd'hui? Ah, c'est bien. C'est bien. On a commencé déjà un cours ensemble avec eux, c'est pourquoi je me rappelle. Bien, merci. Ok. Donc, ce matin, j'ai à cœur de partager un sujet avec vous. Hier, j'ai parlé avec un ami de longue date, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a travaillé en Afrique pendant plusieurs années, qui avait été envoyé par la Banque mondiale pour travailler en Côte d'Ivoire avec nous. C'est quelqu'un qui a beaucoup investi dans l'œuvre de Dieu, malgré qu'il était venu travailler pour la Banque mondiale. Il a donné son temps, son argent, et il a pris le temps de s'occuper des enfants de la rue. Il payait leur nourriture. Il partait dans des quartiers déshérités. Il prenait son argent pour acheter de la nourriture, des sacs de riz. Il a pris des enfants de la rue pour les inscrire à l'école. Il le trouvait et dit, mais tu ne vas pas à l'école? Non, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Oh, mes parents ne sont pas là où je suis dans la rue, je n'ai pas les moyens. Est-ce que tu aimerais aller à l'école? Il dit oui. Si quelqu'un payait tes cours, est-ce que tu vas aller à l'école? Il dit oui. Il dit, bon, moi je vais payer tes cours. Demain matin, tu viens me voir. Et il prenait l'enfant, il l'amenait à l'école. Ainsi, ce couple a enlevé beaucoup de gens dans la rue. Beaucoup de jeunes qui auraient pu être des délinquants, mais qui sont aujourd'hui casés dans la société, qui sont devenus, certains sont devenus des cadres, qui sont mariés, qui ont une vie décente à cause des bonnes œuvres que cet homme a faites. Et hier, quand je parlais avec cet homme, quand il est rentré au Québec, plusieurs années avec sa famille, pendant un an, deux ans, il a eu un emploi, après il a perdu son emploi. Il a 60 ans aujourd'hui, il n'a pas d'emploi. Un ingénieur très qualifié, son âge joue contre lui, mais avec beaucoup de qualifications internationales, mais il ne peut pas trouver de job, nulle part. Il a été obligé de se recycler pour trouver un autre emploi. Hier, quand je parlais avec lui, j'ai été ébranlé au fond de moi. Ébranlé au fond de moi, parce que le seul emploi qu'il avait, quand il a perdu son emploi, quand il est arrivé au départ, il est descendu tellement bas qu'il est tombé sur le bien-être social. Je vous dis, un ingénieur qui a travaillé pour la Banque mondiale, qui se ramasse sur le bien-être social, cependant c'est quelqu'un qui est vaillant, qui est travaillant, qui est sincère, mais qui a accepté cela et qui s'est retroussé les manches pour aller chercher un autre job à 60 ans. Et il vient de perdre cet emploi. Hier, quand je parlais avec lui, lui et son fils travaillent dans la même entreprise. Les deux ont perdu leur emploi le même jour. Son fils va se marier dans le mois de juillet, fin du mois de juillet, c'est le dernier de la famille. Et sa blonde avec laquelle elle va se marier, elle aussi a perdu son emploi. J'étais découragé. Je vous dis, frères et sœurs, je voudrais parler de la tempête dans la barque. Eux, ils ont une tempête dans la barque. Je dirais plus qu'une tempête, c'est un ouragan dans la barque. Combien de personnes ce matin sont comme cette famille? J'aimerais que vous levez vos mains. Combien de personnes ont des difficultés comme cet homme, semblables à cela? Ce monsieur, il continue, c'est un chrétien, il continue de marcher avec Dieu. Quand je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je ne peux pas me passer de ce Dieu-là. Je ne peux pas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je n'ai plus rien. Le seul bien que j'ai, c'est lui. Il reste mon seul bien. Je n'ai plus d'autre. Il dit, Adama, j'ai fait faillite. J'ai même fait faillite, je n'ai plus de pension. Tout, il n'a plus cela. Quand il a fait faillite, les gens sont venus voir son matériel. Il n'y a rien à prendre chez lui parce que tout ce qu'il a, c'est vieux, ça n'a pas de valeur. Est-ce qu'on peut descendre plus bas que ça? Ce matin, ton cœur est comment? Je ne sais pas dans quelle attitude tu es venu ce matin à l'église. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas tes difficultés. Mais je connais les miens, par exemple. Et je connais aussi celles que l'église vit présentement. Donc le sujet que je touche, c'est pour nous encourager mon but. Je ne suis pas là pour amener personne au tribunal. Christ seul fait cela, pas moi. Pas aucun de nous. Mais mon but est de nous encourager. Il y a la tempête dans la barque. C'est vrai. Il y a des difficultés. Oui. Ta vie est ballottée de tous les sens à cause de ton emploi, à cause du manque de travail ou par une maladie quelconque. Dans tous les sens. C'est vrai. Il y a quelqu'un à qui tu peux te fier. Il y a quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Il y a quelqu'un à qui tu peux crier. Regardons notre passage. Jonathan, s'il te plaît, tu peux venir le lire pour moi rapidement. Excusez-moi. Dans Marc chapitre 4, à partir de verset 35, mais on va lire le verset 1 et 2 de Marc chapitre 4 et puis le verset 35 à 41.
Super. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'y leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? »
Merci, Jonathan. C'est une histoire connue de tous. Hein? Ça, ce n'est pas une nouvelle histoire, ce qu'on vient de lire. Tout le monde connaît cette histoire-là. Mais l'histoire se déroule en Israël, comme d'habitude. Et sur la mer de Galilée, Jésus va enseigner toute une foule. Il se met dans une barque et il enseigne. Il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait plus s'arrêter sur la rive. Il était obligé d'emprunter la barque de quelqu'un et de s'embarquer dedans et de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Eh, que j'aurais voulu avoir du monde dans cette salle. Pleine, pas parce que c'est Adama, même si ce serait pour n'importe quel autre prédicateur, pleine au point qu'on va le pendre en haut pour qu'il puisse prêcher. Le suspendre en haut là. Jean-Luc là, on va te suspendre en haut puis tu prêches là. Parce qu'il y a du monde, il n'y a plus de place. Ok, c'est bon. Mais Jésus, il est dans la barque, il y avait tellement de monde qu'il est obligé de se retirer dans la barque. Il parle. Et cette journée a été une journée très chargée pour le Seigneur. Il s'est mis à enseigner les paraboles, le peuple. Pendant toute la journée, il a parlé de s'énerver, il a parlé de la moutarde, il a parlé réellement de la lampe, il a parlé du semeur qui est sorti pour s'aimer. Il compte tout ça et on dit cette journée-là, Jésus a enseigné tellement en paraboles, toute la journée. Et nous pouvons voir dans Marc toujours, verset 33, il dit c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable d'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc Jésus a parlé en parabole. Toute cette journée-là, ça veut dire le chapitre 4 que vous regardez là, du verset 1 jusqu'au chapitre 5, là, tout s'est passé dans la même journée. Il a donné environ 4, 5, 6 prédications. Pour nous, les prédicateurs, nous savons que donner un seulement, après tu es vidé. Mais lui, il en a donné 5 au minimum dans toute la journée. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il dit à ses disciples, allons-y de l'autre bord. On va aller de l'autre bord. Ça me rappelle la chanson qui dit, il n'a pas dit que je périrai, il n'a pas dit. N'est-ce pas? Vous connaissez ce chant-là? Et puis, mais allons de l'autre bord. Et il demande d'aller de l'autre bord. Moi, à la place de Jésus, je dirais, mais je suis fatigué. Et la foule là, rentrez chez vous, les disciples, trouvez-vous un McDo quelque part, un bon restaurant. Moi, je vais aller manger et puis je vais me reposer. Et c'est vrai, c'est ce que j'aurais pu dire. Mais Jésus lui dit, on va aller de l'autre bord. Il va aller exercer son ministère dans une autre contrée, une autre région qui n'a pas encore entendu parler de lui. Mais sur le chemin, la Bible nous dit qu'il y a eu des vagues, une tempête, pendant que Jésus dormait. Jésus dormait et il y a une tempête. Les disciples sont des navigateurs expérimentés. C'est des pêcheurs. Ils savent ce que c'est que la mer. Et la mer de Galilée, pour une petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, c'est une mer qui est placée entre plusieurs vallées. Et c'est entouré de montagnes. Et des vents, le vent de désert souffle dans cet endroit. Et ça fait que cette mer-là devient une mer vraiment agitée et imprévisible pour les navigateurs. C'est une mer qui mesure 21 km et 12 km de large et 40 mètres de profondeur. Et c'est à 212 mètres plus bas que la mer. Et cependant, on appelle la mer aussi. Et c'est dans cette mer-là, dans cette région, que la tempête commence à brasser le bateau dans lequel Jésus se trouvait. Les disciples expérimentés dans la navigation ont commencé à avoir peur. Ils n'étaient plus capables de diriger et de contrôler le bateau à force que la tempête était forte. Très forte. Et à un moment donné, ils ont dû crier au Seigneur. Ils sont allés voir Jésus. Ils l'ont appelé. Ça ne te fait rien que nous périssons et toi tu dors. Et Jésus se lève. Un réveil brutal, mais avec des reproches. Jésus se lève, il ne leur dit pas, « Hey, on ne me parle pas comme ça, moi, là, je suis le Fils de Dieu. » Est-ce que c'est ce qu'il dit? Non. Il se lève, il va régler la situation. Et puis il dit à ses disciples, « Pourquoi vous manquez de foi? Pourquoi avez-vous peur? » Un petit résumé. Premier point que j'aimerais que nous retenons ici. Les disciples obéissent. La tempête, c'est quoi? Premier point, les disciples obéissent à la parole du Seigneur quand il dit « Allons de l'autre bord ». Les disciples ne chiolent pas, ils ne disent pas « Seigneur, on a passé toute une journée, on est fatigué, nous on est tanné de t'écouter, on veut se reposer ». Et de le maître a parlé, ils rentrent dans le bateau, ils mettent le gouvernail en marche, ils prennent la direction que le Seigneur a demandée. L'obéissance des disciples, sans chioler, même s'ils étaient fatigués, se sont soumis. Deuxième point, la tempête qui se lève, j'aimerais savoir, pour vous, en tant que chrétien, une tempête, c'est quoi? C'est quoi une tempête dans votre vie? Quelqu'un est volontaire pour me répondre? Les problèmes. Quoi d'autre? la maladie, la santé, manque de travail, d'autres choses comme ça, plein de choses comme ça, sont des formes de tempête dans notre vie. Une tempête, dans sa vraie définition, c'est que c'est quelque chose qui est imprévisible, il ne prévient pas, il ne dit pas au météorologue, j'en viens. Non, 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 ça surprend les gens sur place. Ils ne s'attendent pas à ça. Tu vas à l'hôpital, ton médecin dit que tu es en cancer, phase terminale. N'est-ce pas un tsunami, ça? Ça, c'est une grande tempête, ça. Quelqu'un que tu aimes, très cher, à ta grande surprise, on te dit, il est allé au marché, à l'épicerie, en venant, en traversant la route, il a été frappé, il est mort. Ça, c'est toute une tempête. On ne s'attend pas à ça. On n'a pas prévu ça. Il y a des morts qui sont prévues, mais d'autres ne sont pas prévues. Il y a des situations qui sont prévues. Tu rentres demain matin, je ne le souhaite pas à personne. Mais tu rentres demain matin au travail, ton patron dit, tu es viré, il n'y a plus d'emploi pour toi. Ça, c'est une tsunami, c'est une tempête, c'est un ouragan dans la vie d'une famille. Ça bouleverse tout. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as de telles nouvelles dans ta vie? Quand de telles nouvelles t'arrivent ou nous arrivent, qu'est-ce que nous faisons? La tempête dans la barque, les disciples, ils ont probablement fait tout leur effort avant d'aller appeler Jésus, comme les humains, comme nous sommes comme ça. Des fois, avant d'agir, avant d'appeler le maître, on va faire tout ce qu'on peut. On va aller voir nos psychologues, on va aller voir nos conseillers, on va faire tout ce qu'on peut. Quand ça ne marche pas, là, on va dire, « Bon, Seigneur, j'ai besoin de toi, il faut que tu te lèves pour faire quelque chose pour moi. » C'est comme ça que Dieu est dans ta vie. La tempête arrive, les disciples réveillent Jésus et il répond à leur prière. La tempête dans nos vies sont des moments difficiles. Et la tempête aussi peut arriver de plusieurs façons dans notre vie. La tempête, des fois, c'est causée par le péché dans notre vie, mais des fois, c'est causée par l'opposition. Le péché dans notre vie peut provoquer des tempêtes dans notre vie. On peut regarder dans la vie de Jonas. Quand Jonas, Dieu lui a dit d'aller à Ninive, Jonas a décidé d'aller où? Ça dort dans la salle, hein? Personne ne m'écoute, c'est bien. Ça va bien? En Espagne. Hein? L'Oboué, ok. Alors il a décidé d'aller à Tarsus, lui. Il a cherché à fuir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis une tempête devant lui. Jonas était en train de désobéir au commandement de Dieu. Et il y a une tempête qui s'est levée pour l'empêcher d'avancer. Des fois, il y a certains péchés dans notre vie. La désobéissance peut provoquer des tempêtes dans notre vie. Et nous devons faire attention à cela pour savoir si ça vient d'une désobéissance ou bien si ça vient vraiment de l'opposition parce que je suis en train d'obéir à Dieu et puis il y a une tempête aussi. Quand tu obéis à Dieu, il y a aussi une tempête. Parce que ici, on a vu les disciples ont écouté le maître, ils vont de l'autre côté. Le maître est dans la barque avec eux. Ils sont en train de faire pleinement la volonté du maître et il y a une tempête. Comment on explique ça? Est-ce que Dieu va s'opposer à lui-même? Non. Ça, c'est l'ennemi. Le diable se lève contre les plans de Dieu. Et quand nous regardons l'Écriture, la Bible va nous dire que quand il va dire, Jésus va se lever, il va dire aux disciples, il va dire au vent et à la mer, il dit, tais-toi, fais silence. Et puis le calme revient. Vous savez ce que ça me rappelle? C'est comme tu es dans ta maison, puis tu as un chien chihuahua là. Ouais. Et puis il jappe à tout moment là. Puis le maître dit, hey, silence, tais-toi. Puis, chut. Il va dans son trou. Silence. C'est comme ça Dieu a traité la tempête. Jésus se lève, il dit à son chihuahua là, il dit, tais-toi. Silence, tout de suite. La mer s'est tue, le vent s'est arrêté de souffler. On n'a pas dit ça s'est fait progressivement. Un coup, les disciples ont été surpris. Ils n'ont pas connu, ils ne connaissaient pas Jésus sur ce côté-là. Ils ne le connaissaient pas dans ce sens-là. Au point qu'ils se sont dit, mais qui est cet homme à qui le vent obéit et la mer aussi obéit? Qui est cet homme? Qui est cet homme pour vous ce matin? Qui est cet homme qui calme les tempêtes de votre vie? Qui est cet homme qui peut ressusciter les morts? Qui est cet homme qui donne la vie? Qui est cet homme qui guérit? Qui est cet homme qui restaure? Qui est cet homme qui enrichit? Qui est cet homme qui appelle les gens à être sauvés? Qui est cet homme qui peut délivrer du péché? Qui est cet homme? Il s'appelle Jésus-Christ. Fils de Dieu. Les disciples avaient une connaissance partielle du Seigneur. Ils avaient vécu avec lui. Ils avaient vu le Seigneur faire des miracles à un certain moment. Ils l'ont vu guérir des malades. Ils l'ont vu réveiller des morts. Ils l'ont vu chasser des démons. Mais le voir arrêter la mer et la tempête, le vent, ça c'était du jamais vu. Et d'autres passages dans la Bible, dans les psaumes 86 et 92, 93, nous parlent. Israël savait qu'il y avait quelqu'un qui devait faire des choses comme ça. Dans leur musique, ils chantaient cela. Et Jésus fait ça. Les disciples sont surpris. Jésus se révèle à ses disciples. Premièrement, quand Jésus dormait, il montre son humanité, qu'il était un humain comme tout le monde. Il était non seulement humain, parce qu'il dormait, il avait faim, il avait soif, mais il était aussi divin à cause de l'exercice qu'il vient de faire sur la nature et la mer. Il vient de calmer la mer, la tempête, pas à peu près. Un homme, 100% homme, 100% Dieu réunis ensemble. Toute une révélation pour les disciples. On a dit, les disciples qui avaient peur, ils avaient peur de la tempête. Maintenant, ils ont commencé à avoir une autre forme de peur qui est plus grande que la tempête. Ils craignaient sainement le Seigneur. Ils voyaient que cet homme était différent des autres humains. Maintenant, ce matin, j'aimerais te demander, mon frère, ma soeur, quelle est la tempête qui te fatigue? Quelle tempête tu traverses présentement? Dans ta vie, est-ce que c'est une tempête de manque de travail, de manque de blonde, de manque de chum, de manque... Je ne sais pas là. On peut aligner. Dans ta bac, ta vie est une bac. Jésus est avec toi. Et le Jésus qui est en toi ne dort ni ne sommeille. Parce que la Bible nous dit maintenant, Jésus était physiquement sur la terre, il a dormi. Mais maintenant, il est dans le ciel, il intercède pour nous. La Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Il habite en toi, il vit avec toi, il ne dort pas. Est-ce que tu es prêt à l'appeler de te venir au secours? Les disciples ont appelé Jésus au secours, il a répondu. Au lieu de te morfondre sur toi-même, au lieu de critiquer, au lieu de te décourager, au lieu de baisser les bras dans tous les sens, au lieu d'être abattu par les situations que tu vis, retrousse les manches, crie à Dieu. Amen. Crions à Dieu. La tempête que nous vivons, nous allons la traverser parce que c'est une leçon, c'est un enseignement pour notre maturité, pour notre croissance spirituelle. On ne peut pas grandir sans passer par les tempêtes. La foi des disciples ne peut pas grandir sans qu'ils ne passent par cette tempête-là. Jésus a vu le degré de leur foi au travers de cette tempête-là. Nous sommes dans une tempête comme Église. Nous vivons tous des tempêtes individuellement. Mais ce que nous pouvons faire comme peuple de Dieu, appelons le Maître. Crions à Jésus-Christ. Il viendra calmer la tempête. Lui va dire un mot, la tempête va s'arrêter. Ce matin, est-ce que tu veux que la tempête s'arrête dans ta vie? Est-ce que tu veux que la tempête s'arrête dans l'Église? En dehors de l'Église, dans ton travail, dans ton couple, dans tes relations qui ne réussissent jamais, dans la maladie, dans les difficultés que tu rencontres tous les jours, veux-tu que Dieu se lève et qu'il arrête la tempête de ta vie? C'est en priant. Les disciples ont fait la prière parce qu'ils sont allés appeler le Seigneur. Ça ne te fait rien que nous périssons et toi tu dors. Jésus s'est levé. Même si cette prière est mal formulée, mais Dieu a répondu pareil. Amen. La prière n'est pas faite de la bonne manière. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit
intercède par des soupirs inexprimables pour nous parce que nous ne savons pas comment. Alors donc, comme on ne sait pas comment prier ou comment demander, et quand nous prions, le Saint-Esprit s'occupe de notre prière et il place notre demande devant Dieu et Dieu répond. Et quand ils ont fait la prière, Jésus a répondu. Même si tu ne sais pas prier, si tu es sincère dans ta demande, ce matin, je crois que Dieu va répondre à ta prière. Sans doute. Sans doute, il répond à nos prières. J'aimerais que nous regardions dans le psaume, s'il vous plaît. Il y a un psaume que j'aimerais qu'on le lise ensemble. Le psaume 107, versets 28 à 30. Will Piu, tu es à côté de moi, peux-tu le lire pour nous, s'il te plaît? 107, versets 28 à 30. Amen. Dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a répondu. Dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu a répondu. Dans leur découragement, dans leur tempête, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, ils crièrent à l'Éternel et Dieu a répondu. Et dans Philippiens, il nous dit, ne vous inquiétez d'eux, mais en toute chose, faites quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu, comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En toute circonstance, en toute situation, difficile ou paisible, compliquée, Dieu dit, faisons recours à la prière. La seule arme que nous avons comme peuple de Dieu, comme enfant de Dieu, ce n'est pas des coups de poing. Ce n'est pas des armes blanches. Ce n'est pas des roches qu'on va tirer. Ce n'est même pas les rancunes. Mais c'est la prière. La prière décante toute situation. S'il vous plaît, peuple de Dieu, dans nos difficultés, faisons appel à Dieu. Même celle que nous vivons présentement dans l'Église. Je vous demande, je vous en prie, tenez-vous debout et priez. Ne laissons pas l'amertume, la rancœur, les difficultés détruire ce beau peuple de Dieu que nous formons. Parce que nous allons tous rendre compte à Dieu pour notre geste et nos paroles que nous avons pris dans la situation. Et la Bible dit, chacun rendra compte pour ce qu'il a dit, de bien ou de mal. Y compris moi-même. Comment j'ai traité les autres. Comment les autres m'ont traité. Je n'ai pas à me faire justice. Mais Dieu dit que nous rendons compte. Mais si nous devons rendre compte à Dieu un jour par rapport à tout ce que nous vivons, je crois que je devrais être capable de me tenir devant Dieu dans l'intégrité, dans la sincérité de mon cœur et regarder Dieu et dire que j'ai été correct. Que nous avons été corrects dans la façon dont nous avons travaillé. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'une repentance est nécessaire. Une repentance est nécessaire pour que la tempête s'arrête. Jonas, au fond du bateau, quand il est descendu dans le ventre de la baleine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il s'est repenti. Il a demandé l'aide de Dieu. Et après, le poisson a été dirigé pour le vomir sur la rive. Amen. Le succès pour notre peuple, la victoire pour l'Église que nous formons, pour nos vies, pour nos couples, pour notre travail, pour nos relations, est basé réellement sur comment nous regardons à Christ et comment nous l'appelons. Et notre victoire dépend de sa victoire. Notre joie dépend de sa joie. Et quand nous sommes tristes, le Christ aussi est triste. Quand nous sommes joyeux, il est joyeux, parce que nous formons son peuple. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Tu connais les tempêtes de nos vies, tu connais les situations difficiles que nous vivons chacun. Mais Seigneur, nous te demandons pardon partout où nous avons manqué. Partout où nous avons manqué comme peuple, nous te demandons pardon. Nous demandons que tu tendes ta main. Seigneur, individuellement aussi, dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, dans nos vies de travail, dans nos relations les uns avec les autres, Seigneur, nous te demandons de venir tendre ta main et d'arrêter, de calmer la tempête, de te faire découvrir encore sur une autre dimension dans nos vies ce matin. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous garde.